Soyez bienvenus, nous sommes tous heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'International sur les antennes de RFI, de TV5 Monde, émission réalisée en liaison avec le quotidien français Le Monde. Dans 9 mois tout juste, les représentants de 195 pays vont se réunir à Paris pour un objectif historique, tenter de prévenir le dérèglement climatique qui menace la Terre, qui menace nos sociétés et l'ensemble de nos systèmes économiques. Voici un peu plus de 10 ans, c'était donc à Johannesburg, 13 ans exactement, le président Jacques Chirac avait lancé cette formule qui restait dans les mémoires, « Notre maison brûle ». Et nous regardons ailleurs. La question que nous allons nous poser, puisqu'il y a eu bien des conférences depuis sur le climat, la question que nous allons nous poser, c'est est-ce que cet incendie est sous contrôle? Est-ce que des mesures peuvent être prises pour tenter de limiter ce réchauffement climatique? Un chiffre, si on ne fait rien, d'ici à la fin du siècle, l'augmentation de la température pourrait être sur Terre de plus 5 degrés. On entre probablement alors dans une situation qu'on a peine à imaginer. Notre invité aujourd'hui est une scientifique française de réputation mondiale, Laurence Tubiana, merci d'être avec nous. Vous êtes également ambassadrice pour la préparation de cette conférence sur le réchauffement climatique. Vous êtes chargée donc de cette mission importante de préparer tout ce qui va se passer. À 9 mois exactement de cette conférence, bien nous avons eu envie de faire le point avec vous, avec Sophie Malibaud de RFI qui va également donc vous poser des questions autour de cette réalité. On va voir un court reportage sur ce qui s'est passé il y a un peu plus de 10 ans, ce de Kyoto et les objectifs de cette conférence de Paris. Je voudrais vous demander, vous voyez l'actualité comme nous, vous êtes citoyenne du monde, lorsqu'on parle de l'Ukraine, lorsqu'on parle des crises économiques à travers le monde, lorsqu'on parle du terrorisme, est-ce que l'environnement, est-ce que la conférence sur le climat, c'est du même degré d'importance et d'urgence ?
Bien, si on regarde ici tout ce qui se passe dans le monde, on pourrait évidemment considérer que les échéances de ce changement climatique sont trop lointaines pour occuper l'actualité. Donc le bon sens voudrait qu'au fond ça ne se passe pas, qu'on ne s'y intéresse pas. Et en réalité, c'est au fond quelque chose qui revient sans arrêt sur le devant de l'actualité. C'est pour ça que la conférence de Paris a pris cette importance considérable, parce qu'il se trouve que de plus en plus, on constate les impacts de ce changement climatique qui sont très graves, bien plus graves d'ailleurs, souvent, que ce qu'on constate dans le monde d'aujourd'hui. Et donc il y a cette tension entre le court terme qui a l'air de dire il faut parler d'autre chose, ouais, et en fait quelque chose dont on voit bien cette espèce
mais
de...
Mais vous vous souvenez d'une formule, c'était Nicolas Sarkozy qui avait indiqué l'environnement, l'écologie, ça commence à bien faire. Il y a d'autres urgences, c'est un peu ce qu'il sous-entendait. On pourrait pas dire la même chose aujourd'hui?
Je crois que pas de toute façon, après tout, on peut bien dire, on regarde ailleurs, ouais, mais il n'empêche que les phénomènes continuent à avancer. Donc, c'est une manière de se voiler la face.
Alors, avant de vous retrouver avec Sophie Malibaud dans un instant, je voudrais que l'on revienne sur un court rappel de ce qui s'est passé il y a 10 ans donc à Kyoto, et voir également quels sont les objectifs de cette conférence de Paris Climat 2015.
Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 5%, c'était l'objectif du protocole de Kyoto, entré en vigueur il y a 10 ans. Industrie, transport, énergie, construction et même l'agriculture. Tous les domaines économiques sont concernés. Certains pays industrialisés ont bel et bien réussi cet effort. La France, notamment, plutôt bon élève. Entre 1990 et 2012, la France a réduit de 12% ses émissions de gaz polluants. Mais à l'échelle planétaire, l'objectif de Kyoto est loin d'être atteint. À la conférence de Durban, les Nations Unies tirent une fois de plus la sonnette d'alarme.
D'après l'Organisation mondiale de météorologie, les émissions de carbone ont atteint des sommets records dans l'histoire et sont toujours en train d'augmenter.
Alors dans le monde, quels sont les pays les plus pollueurs? L'Europe est en 3e position, loin derrière la Chine qui détient tous les records avec les États-Unis. Il faut attendre l'année dernière pour que ces deux principaux pollueurs participent eux aussi à la mobilisation mondiale.
Nous sommes les deux plus grandes économies du monde, les principaux consommateurs d'énergie et émetteurs de gaz à effet de serre. Nous avons donc une responsabilité particulière dans les efforts globaux contre le réchauffement climatique. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis fier de pouvoir vous annoncer cet accord historique.
Mais 10 ans après Kyoto, l'urgence est toujours là. D'ici la fin du siècle, la température de la Terre pourrait augmenter de près de 5 degrés. La fonte des glaces élèverait alors le niveau des mers de près d'un mètre. Inondations, désertification, incendies, ces catastrophes entraîneraient des migrations de réfugiés climatiques. Autant de crises humaines, mais aussi politiques et économiques. Alors pour éviter le pire, début décembre, une conférence réunira 195 pays à Paris.
Nous voulons nous appuyer vraiment sur l'ensemble des gens de bonne volonté à travers le monde. Ça va être compliqué, je ne le cache pas. Mais il y a un travail à faire et on ne peut pas échouer.
Objectif de Paris Climat 2015, limiter la hausse de la température moyenne à 2 degrés. Les solutions existent déjà. Développer les énergies renouvelables, inventer de nouveaux moyens de transport, produire moins, mieux et à proximité. Bref, encourager ces nouvelles économies respectueuses de la planète Terre.
Laurence Mina, donc ambassadrice sur ce changement climatique, vous préparez cette conférence. Laurent Fabius, à l'instant, dit « on ne peut pas échouer ». C'est le plan, en quelque sorte, qu'il assigne à cette conférence. Et si les 194 pays ne jouaient pas le jeu ?
J'ai le sentiment que nous sommes aujourd'hui dans un contexte où tout le monde a envie d'aboutir. Et c'est la première fois. Avant Copenhague, beaucoup de pays disaient c'est trop tôt. Enfin, qu'est-ce qui est trop tôt ? Que tous les pays s'engagent à réduire leurs émissions, que tous les pays s'engagent dans une trajectoire de développement différente. C'est-à-dire moins d'émissions, moins de charbon, beaucoup moins de recours aux énergies fossiles. Et donc, avant Copenhague, il y avait beaucoup de pays qui disaient c'est trop tôt. Et d'ailleurs, on a vu la crise et du coup, finalement, un échec, en tout cas partiel. Tandis que aujourd'hui, tout le monde veut y arriver. Et pour de bonnes raisons. D'une part parce que la Chine a compris son rôle et l'assume d'une certaine façon. Aussi parce que les impacts du changement climatique dans de grandes économies comme la Chine se font sentir et vont devenir vraiment très, très dangereux. Il ne faut pas oublier que le développement économique chinois, il est sur le littoral, que les montées des mers vont plus vite en Chine qu'ailleurs. Donc il y a une prise de conscience qui s'est faite progressivement, à coup de choc, à coup de rapports scientifiques dans les pays eux-mêmes. Et aujourd'hui, le sentiment qu'il faut faire. Mais on ne peut pas faire tout seul, il faut que tous les pays fassent. Et c'est pour cela qu'on a de meilleures chances qu'à Copenhague d'arriver.
Sophie Malibo.
Laurence Toubiana, qu'est-ce que ça veut dire réussir ? Est-ce que ça doit passer, par exemple, par l'adoption d'un mécanisme juridique contraignant pour voir si, effectivement, les pays remplissent leurs engagements ? Est-ce que c'est le but de cette conférence ?
On va forcer les pays ?
C'est le but. On ne va pas forcer les pays. Ils vont être d'accord à s'engager, à respecter, à accepter une discipline qui règle au fond chaque attitude de chaque pays. Et pourquoi on en a besoin ? Après Copenhague, et notamment lorsque nous avons finalisé l'accord après Copenhague à Cancun, donc un an après, l'idée était de ne pas avoir d'accord juridique contraignant. Et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas, que le fait d'avoir simplement des contribution volontaire de chacun, ce qui est aussi une des bases de ce qu'on cherche à Paris, ça suffit pas parce que il faut qu'il y ait une prévisibilité. Il faut que les pays sachent que sur longue période, c'est un engagement irréversible. Il va falloir aller toujours plus loin, même si on ne peut pas franchir toutes les étapes en même temps. Et c'est pour cela que cette idée qui paraissait enterrée en 2009-2010 et a ressurgi à Durban, comme le reportage le signale, et que maintenant on s'est donné donc 2015 comme moment d'arriver à ce mécanisme contraignant.
Et quelle nature peut être ce mécanisme ? Qui peut décider des sanctions ? Un organe indépendant, tout comme ce GIEC, cet organe d'experts indépendants sur lesquels se basent la plupart des analyses et des prévisions sur le climat ?
La plupart des textes internationaux qui ont une force juridique ne comporte pas forcément de mécanismes de sanctions. D'abord parce qu'on ne sait pas très bien qui pourrait les appliquer. Et même dans le cas de Kyoto, d'ailleurs, où il y avait des mécanismes de sanctions, on a bien été incapable de les appliquer. Donc on passe de cette conception qui était plutôt en vigueur dans les années 90, dont il faut multiplier des mécanismes juridiques avec des sanctions, à la reconnaissance que c'est impossible parce que les équilibres géopolitiques sont trop complexes, qu'il y a vraiment une grande difficulté. On n'a pas de gouvernement mondial pour appliquer ces sanctions, il n'y a pas de tribunal international de l'environnement. Donc il faut que simplement les pays convergent dans le fait que de toute façon ils vont se surveiller les uns les autres. Et le cœur de ce mécanisme juridique contraignant qu'on va, j'espère, signer à Paris, c'est un mécanisme de surveillance mutuelle. Et il y a beaucoup d'accords internationaux qui fonctionnent comme ça.
Mais qu'est-ce qui empêche, par exemple, un pays comme la Chine, vous mentionnez la Chine tout à l'heure, effectivement, les Chinois ont dit qu'ils ont décidé maintenant que le pic de leurs émissions de gaz à effet de serre devrait être atteint en 2030. Oui. Ça veut dire que jusque-là, pendant 15 ans, ils vont polluer, leur courbe est encore très ascendante. Ils vont continuer de polluer considérablement, puisqu'ils sont passés, ils sont les numéro un maintenant. S'ils décident unilatéralement de repousser cette échéance, qu'est-ce qui peut les en empêcher ?
Bah, premièrement, l'effet de réputation. On n'est pas bientôt la première économie mondiale impunément. Donc on a des responsabilités. C'est ce que signalait Obama dans sa déclaration conjointe avec Xi Jinping. Donc l'effet de réputation, il est important. C'est aussi que si on ne respecte pas ses engagements, encore une fois, quand on est un émetteur aussi important, mais aussi un producteur et un exportateur aussi important, on peut craindre des rétorsions commerciales et en tout cas des critiques nombreuses à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis plus important que ça, la Chine a besoin de réduire ses émissions parce qu'elle a besoin de réduire la pollution locale parce que pour des raisons internes. Donc le meilleur garant du respect par la Chine des engagements, c'est la dynamique de la société chinoise. Et c'est ça exactement sur quoi il faut compter dans chaque cas d'ailleurs.
On entend vos propos. Est-ce que ça veut dire qu'on doit aller vers une forme, le terme n'est pas évidemment bien vu, mais de décroissance, de limitation d'un mode de vie, de changer de mode de vie? Alors, on va changer de mode de vie?
On ne va pas changer de mode de vie au sens pas se chauffer ou pas avoir recours à l'électricité. Ça, c'est vraiment ceux qui veulent caricaturer ce qu'il faut faire. Mais il faut sûrement changer. D'abord, il faut changer beaucoup de choses. Par exemple, la nature des transports qu'on utilise. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus que des transports en commun d'ici 2050, mais que ces transports qui resteront les voitures qu'on utilisera, il faudra qu'elles soient profondément différentes.
C'est-à-dire, c'est la fin du moteur à essence, le pétrole?
Oui, en tout cas, dans tous les scénarios pour 2050, si on veut réduire les émissions mondiales de moitié, et notamment de 80 ou 90% dans les pays développés, ça veut dire que oui, dans un pays comme la France, en 2050, on ne devrait plus avoir un véhicule qui roule comme ceux d'aujourd'hui. Oui. Ils seront électriques ou avec des biocarburants.
Il y a des réalités économiques. On assiste en ce moment, depuis le mois de juin dernier, à une chute du prix du pétrole. Ça ne va pas beaucoup aider?
Je suis pas d'accord avec cela. D'abord parce que les prix hauts du pétrole n'ont pas nécessairement conduit à des politiques climatiques beaucoup plus fortes. Et surtout, ça donne une marge de manœuvre extraordinaire au gouvernement. Je prends un exemple, les subventions aux énergies fossiles. Très importante dans beaucoup de budgets de pays développés et non développés. La baisse des prix du pétrole redonne une marge économique. Alors bien sûr, soit on est sérieux et on investit cette marge dans l'investissement en recherche, développement, déploiement des énergies renouvelables, bon, soit on attend que ça passe. Bon, bien sûr, tout ça dépend quand même d'une clarté des politiques et aussi des pressions des acteurs économiques. Et ce qui a changé aussi par rapport 10 dernières années, c'est que ces acteurs économiques, de plus en plus nombreux, y compris dans les grandes entreprises globales, elles demandent des politiques climatiques sérieuses. Ça, c'est vraiment une innovation. On a vraiment un phénomène de dynamique entre des gouvernements qui pensent qu'il faut qu'ils y aillent et ils essayent d'aller ensemble parce que sinon ça coûte trop cher, et des acteurs économiques qui disent il nous faut un prix du carbone, il faut des mesures qui, dans le temps, pour qu'on puisse s'organiser, et c'est ça qu'on doit faire. Donc c'est cette prise de conscience à différents niveaux qui nous permet d'être, je crois, optimistes.
Il y a des tentatives pour mettre en place des outils comme les permis de polluer, on peut échanger des certificats de carbone. On voit que là aussi les cours sont en chute libre, et donc c'est pas très incitatif. C'est un problème. Comment alors, fait-on pour y remédier?
Ça dépend où. Ça a beaucoup baissé en Europe, parce qu'il nous faut réformer ce marché européen, parce que tout simplement, avec la crise économique en particulier, on a donné beaucoup trop de droits d'émission au secteur industriel, donc il n'en avait pas besoin. Donc c'est pour cela que les prix ont chuté.
Qui ont, quand vous dites on a donné?
C'est les gouvernements européens entre eux qui ont décidé de la répartition, et la Commission européenne qui est aujourd'hui en charge de gérer ce marché du carbone. Et d'ailleurs, dans les mois et les années qui viennent, en tout cas d'ici 2017, on a donc l'obligation, les pays sont d'accord pour réformer ce marché. Mais il ne faut pas pas regarder que l'Europe, qui en plus représente pas tant ça des émissions.
C'est le troisième pollueur.
C'est le troisième pollueur, mais beaucoup plus petit que les deux autres.
Que la Chine et les États-Unis.
Que la Chine. La Chine est en train de mettre un marché du carbone en place. Il sera en place complètement en 2016. Et déjà, les objectifs en termes de prix du carbone en Chine sont bien supérieurs à ce qu'on a en Europe. C'est vrai, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Dans beaucoup d'États, on a organisé des marchés du carbone, là aussi avec des prix qui sont plus élevés que les 5 ou 6 euros la tonne qu'on connaît en Europe. Donc je crois qu'on est on est au début d'un mouvement qui va effectivement, mais ce n'est pas la seule solution, c'est une des solutions, mettre un prix à cette pollution. Mais encore une fois, ce n'est pas la seule solution parce qu'il faut beaucoup d'autres choses.
Et est-ce que la solution aussi passe forcément par ces grandes conférences où, on le disait, ce sont 194 pays, 196 partis, comme on dit. Est-ce que c'est dans cette enceinte-là que les choses vont concrètement bouger? Parce qu'on le voit, par exemple, les États-Unis et la Chine, quand ils ont passé cet accord, les deux chefs d'État se sont rencontrés et ils ont annoncé des objectifs. C'était complètement en dehors de ce mécanisme onusien.
Pas du tout. C'est à la fois en dehors de ce mécanisme et en même temps les coups de téléphone passés pour nous, puisque j'ai eu très longuement le négociateur américain avant qu'il ne publie le communiqué. C'était bien et c'est écrit noir sur blanc, c'est pour avoir un accord important à Paris et aussi parce qu'on sait que cet accord c'est une première étape parce qu'il ne suffit pas. Et donc au contraire, tous les accords bilatéraux qui pourront exister avant 2015, enfin avant la fin de l'année, ils vont donner l'impression du dynamisme et de l'engagement. Et en réalité, les États-Unis tiennent plus que tout à ce qu'on ait un accord en 2015. Et c'est vrai aussi pour la Chine. Je crois que...
Vous dites les États-Unis, les républicains, les démocrates ne sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde.
Je parle de l'administration américaine d'aujourd'hui. C'est déjà très bien qu'elles se sont engagées, ce n'était pas le cas depuis longtemps. Et du côté du gouvernement chinois, qui a une durée de vie plus longue, c'est un engagement vraiment très sérieux. Donc, pourquoi les pays ont besoin, et pas seulement les pays, pourquoi les entreprises ont besoin d'un accord, un accord pour tout le monde? C'est parce qu'il faut de la prévisibilité. C'est parce que si on a un accord qui sera signé par le président Obama, le président Xi Jinping et d'autres, ça veut dire que on va pas en sortir comme ça. Bien sûr, s'il y a une catastrophe mondiale, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais on a une prévisibilité dans le temps de que cette économie dite sobre en carbone, elle va se développer.
Pour que ça fonctionne, il faut aussi le poids des opinions publiques. Ce ne sont pas simplement les dirigeants. Et dans certains pays, on parlait de la Chine, le poids de cette opinion publique est relativement faible à faire pression sur les dirigeants.
Oui, c'est leur système politique. En même temps, pour connaître bien la Chine et y aller vraiment très souvent, le problème de la pollution locale est devenu un problème politique majeur. Et la réponse au changement climatique va de pair avec quoi ? La diminution de la consommation de charbon, qui est le grand polluant aujourd'hui en Chine. Et donc, il y a une exigence intérieure qui est aussi forte que l'exigence internationale. Et on voit que le gouvernement chinois a décidé de combiner la réponse internationale à la réponse intérieure. Et il le réaffirme sans arrêt. Vous savez, il n'y a pas un séminaire dans lequel des scientifiques chinois viennent de tout et les plus proches du gouvernement qui ne commence pas, quand on parle du changement climatique, par parler des maladies pulmonaires. Donc ce souci,
c'est un problème de santé publique
en santé publique, voilà. C'est ça qui a complètement changé, bien sûr, là.
Mais les deux dernières questions avant notre pause.
Ce que l'on a pu voir lors de la dernière conférence à Lima l'hiver dernier, c'était que les pays du Sud ont des attentes. Quelles seront les réponses qui pourront être apportées lors de Paris Climat 2015?
Eh bien, il y a deux types de réponses, ou plusieurs, mais enfin, très important, la prise en considération des coûts du changement climatique pour, en tout cas pour les pays les moins avancés.
Qu'est-ce que ça signifie?
Ça signifie de trouver des moyens de financement sérieux, clairs, prévisibles. C'est pour ça qu'on a créé le Fonds vert. Et c'est pour ça aussi que ce Fonds vert va être accessible dès 2015, notamment pour les pays les moins avancés.
Alors, je vous propose de développer, de revenir sur ce Fonds vert, donc pour permettre à ces pays les moins avancés de jouer le jeu, en quelque sorte, et de n'être pas pénalisés. Avant ça, nous allons sur les antennes de RFI et sur celles de TV5 Monde faire un point de l'actualité. On se retrouve tout de suite, en studio. Retour international, nous recevons aujourd'hui Laurence Toubiana, ambassadrice en charge du changement climatique. Vous préparez notamment cette conférence qui aura lieu dans une dizaine de mois en France, 195 pays, on le rappelait, au chevet de la planète. Nous parlions avant cette pause du fonds vert, Sophie Malibaud.
Oui, le fonds qui est censé donc aider les pays du Sud, les pays en développement, à pouvoir réduire les effets des émissions du réchauffement climatique. Ce fonds vert, à l'heure actuelle, il est à peu près au dixième de ce qui est censé être nécessaire pour y parvenir. Il faudrait 100 milliards, on parle de 100 milliards de dollars nécessaires. On en est très très loin. Est-ce que vous attendez à Paris des engagements, des promesses? Est-ce que c'est une conférence qui va déboucher sur des promesses?
Peut-être une petite correction tout d'abord. Les 100 milliards de dollars auxquels on s'est engagé à Cancun d'ici 2020, c'est d'ici 2020, c'est pas tout de suite, ne vont pas tous passer par le fonds vert. Il y a peut-être une petite confusion dans ce domaine. Donc on va réabonder le fonds vert régulièrement, mais on va aussi utiliser beaucoup d'autres canaux de financement qui pour aboutir au moins à se chiffrer, sans doute bien sûr au-delà après 2020. Et les sources de financement, elles sont publiques. C'est à la fois les banques de développement qui vont accroître, on l'espère, leur contribution, l'aide publique au développement qui, de plus en plus, va intégrer cette dimension du climat. Et ensuite, de nouvelles sources de financement innovantes qu'on recherche, par exemple la taxe sur les transactions financières pour laquelle la France se bat, mais d'autres aussi. Et puis, des fonds privés, puisqu'il s'agit quand même, au total, il s'agit d'investissement dans toute cette histoire. Investir dans les énergies renouvelables, investir dans la résilience, la résistance au changement climatique, dans certains cas, c'est améliorer l'agriculture, c'est avoir des digues qui protègent mieux les villes lorsqu'elles sont sur le littoral.
On parle par exemple aussi d'un système d'obligations vertes, des obligations vertes qui permettraient d'avoir des fonds.
Il y a donc toute une série, d'une part des sources innovantes et d'autre part des financements privés qui vont venir se combiner avec ces financements publics pour donner un accès accéléré, si on peut dire, à cette transformation économique. Mais encore une fois, ce financement, c'est de l'investissement. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce qu'on cherche à faire pour le changement climatique.
Un exemple précis, tout près d'ici, à Paris, à quelques kilomètres de ce studio, il y a le salon de l'agriculture qui montre du machinisme, qui montre des pratiques, etc. Est-ce que là aussi, l'agriculture va devoir changer pour s'inscrire dans cette ambition de limiter le réchauffement climatique? Parce qu'il faut nourrir, il faut augmenter la production, la population se développe, s'accroît. Est-ce que c'est compatible?
C'est compatible, en tout cas, c'est pour cela que la recherche agronomique est aujourd'hui à fond investie dans ce double challenge qui est de dire l'agriculture, qui est une source d'émissions importante aujourd'hui avec la déforestation, est-ce qu'elle peut aussi devenir une solution? Alors pourquoi? C'est que, on le voit dans les débats qui ont lieu autour du salon de l'agriculture depuis quelques jours, c'est que les sols agricoles, lorsqu'ils sont fertiles, lorsqu'ils sont en bonne santé, ils captent du carbone, autant ou sinon plus que les océans. Et donc ils peuvent vraiment contribuer au stockage du carbone, puisqu'il y a deux manières, on réduit les émissions d'un côté, puis on essaye de stocker de plus en plus du carbone pour ne pas le renvoyer dans l'atmosphère. Et donc l'agriculture peut le faire. Elle peut aussi avoir des pratiques qui sont beaucoup moins polluantes, c'est-à-dire consomme moins d'énergie, moins de fertilisants,
moins de produits,
voilà, moins de l'eau de façon plus raisonnable, enfin plus précise. Et tout ça, c'est de la consommation d'énergie. Il y a un lien.
C'est-à-dire que le modèle d'une agriculture industrielle, agroalimentaire, ce modèle-là est périmé?
Tel qu'il est aujourd'hui, oui, très probablement. Il a besoin d'évoluer. Il a besoin d'être beaucoup moins intensif en intrants. Il a besoin de beaucoup plus se focaliser sur le maintien de la fertilité des sols. Et il a besoin aussi de travailler sur des variétés qui sont moins gourmandes en eau, qui vont résister plus à la sécheresse et qui peuvent, je dirais, se nourrir elles-mêmes plus facilement. Et donc, de ce modèle où on apportait beaucoup de choses avec les produits fossiles, on doit passer à un modèle qui est beaucoup plus biologique. Et c'est pour ça qu'on appelle cela l'agriculture agroécologique.
Mais parce que le président Hollande, lorsqu'il est passé au salon de l'agriculture, il a exprimé le fait qu'il fallait produire plus, car d'ici 2050, on aurait sans doute quelques 9 milliards de personnes à nourrir sur la planète. Donc, produire plus d'une façon différente, sans recourir à la...
On a eu beaucoup de révolutions agricoles dans le monde depuis longtemps, donc il faut en engranger une nouvelle. La révolution verte, elle ne se posait pas de problème de manque de ressources, de phosphate, de nitrate, gigawatts, on avait l'impression qu'on en avait beaucoup, et on en avait beaucoup, mais tout ça est en train de s'épuiser. Il ne faut pas penser seulement au changement climatique. On a aujourd'hui de moins en moins de phosphates disponibles dans le monde. Or, l'agriculture industrielle classique, celle qu'on a fait de la révolution verte et qui a eu beaucoup de, qui a produit beaucoup de bénéfices, hein, notamment pour alimenter beaucoup plus de monde, celle-là, elle est sur une base qui est aujourd'hui en train de se rétrécir. Donc il faut inventer autre chose. Donc, et au fond, c'est vrai pour tout ce secteur. On a consommé beaucoup de ressources naturelles très abondantes et on doit, dans l'agriculture, dans l'industrie, comme pour d'autres, aller dans un modèle beaucoup plus économique. Et c'est une révolution technologique. C'est une révolution d'innovation. C'est en ça pour ça que cette lutte contre le changement climatique, c'est d'abord une question de changement de modèle de développement, mais c'est aussi une grande, un grand saut vers une nouvelle modernité. Mmh. C'est pas regarder en arrière, c'est regarder en avant.
Ça veut dire qu'il faut lier la question climatique à la question de la sécurité alimentaire, et si c'est le cas, est-ce que ça doit déjà être reflété dans le texte de la conférence à venir ?
Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a inscrit dans le texte qui est sorti de Genève, et la France a beaucoup milité pour ça.
Donc en février, on est la sécurité. Une étape de
voilà,
de
mais on en
discussion.
Aura bien sûr d'autres, mais la sécurité alimentaire, maintenant, elle fait partie du sujet, comme d'ailleurs les droits humains, ce qui est très important.
On fixe les esprits. L'ambition, c'est de limiter le réchauffement encore à 2 degrés de plus.
Non, on a déjà fait 1 degré, donc c'est 1 degré et demi au maximum.
Ouais.
Enfin, on est un peu moins d'un degré et il faut donc qu'on limite maintenant à un degré ou un peu plus d'un degré et stabiliser. Hein,
c'est-à-dire pour toujours, ce serait le plafond qu'il ne faudrait ne pas dépasser.
Oui, et même les petites îles pensent qu'à avec une augmentation de la température moyenne par rapport à l'ère pré-industrielle, si on l'a stabilisée à plus de degrés, beaucoup de territoires disparaîtraient déjà. Hein. Donc eux poussent pour
des réfugiés climatiques, quoi.
Voilà. Et on aura de toute façon des réfugiés.
Et si on va au-delà, on entre dans un monde qu'on peine à imaginer.
Voilà, oui, parce que autant les modèles climatiques permettent de comprendre déjà les impacts avec cette hausse de 2 degrés, qui sont déjà sévères en matière de sécheresse, en matière de événements extrêmes. Mais là, on entre dans un domaine où là les catastrophes vont se multiplier, dont on ne sait pas très bien comment on pourrait s'adapter à ce monde-là.
Avec cette injustice, pardon, c'est que ceux qui subissent le plus ne sont pas ceux qui polluent le plus.
Bien sûr, c'est le plus flagrant. C'est pour ça que c'est très important. Vous disiez, on n'a pas besoin d'un accord. On a besoin des 195 pays parce que c'est les pays les moins avancés, c'est les petites îles qui font pression pour qu'on y arrive.
Je ne voulais pas dire on n'a pas besoin d'un accord, mais est-ce qu'il ne faut pas partir déjà de la base ? Par exemple, si on prend le cas français, la France qui doit adopter une loi de transition énergétique qui suppose vraiment un changement de comportement, un changement de mode de vie quasiment, et on voit que les choses ont beaucoup de difficultés pour avancer. Et la France, la question, c'est est-ce que la France est vraiment un exemple en matière de lutte contre le réchauffement climatique, du fait aussi de la structure de son mix, ce qu'on appelle le mix énergétique, où nous reposons énormément sur le nucléaire en France.
Enfin, on repose beaucoup sur le nucléaire, mais quand même 70% de notre consommation, elle est d'énergie fossile. Mmh. Hein, donc c'est que l'électricité qui est à 80% d'origine nucléaire. Donc l'électricité, c'est pas tout en France. L'essentiel de notre consommation énergétique, c'est le chauffage, les voitures, etc.
Et ça, c'est pétrole. Fossile pour l'essentiel.
Et c'est du pétrole, oui. C'est du fossile. Donc, on a beaucoup de progrès à faire. Et ce n'est pas un changement de mode de vie. Enfin, je me suis beaucoup occupée de ce débat sur la transition énergétique. Ce n'est pas un changement de mode de vie. C'est d'abord des économies d'énergie. Vous savez que l'Agence internationale de l'énergie montre que pour faire la moitié du chemin, pour réduire les émissions de moitié, ce qu'on doit faire hein, d'ici 2050, ça suppose que l'économie d'énergie, ça représente un tiers de cet effort. Et c'est vrai pour la France. On a encore beaucoup de progrès à faire en matière d'économie d'énergie. Ce qu'on a un peu arrêté de faire d'une certaine façon depuis la fin des années 70. On doit développer les énergies renouvelables.
On a du mal en France. C'est très lent l'évolution sur les énergies renouvelables en France par comparaison avec l'Allemagne et même la Chine qui est pollueur numéro un mais aussi très avancée au niveau industriel dans
oui,
les dispositifs.
Oui, parce que nous avions le confort de cette source d'énergie nucléaire.
Voilà.
C'est pour ça qu'on a moins investi que les autres.
Justement, à partir du moment où on n'arrive pas à fixer de calendrier pour dire comment on va faire pour réduire la part du nucléaire dans l'électricité, malgré tout, tant qu'on n'a pas cette visibilité, est-ce que vous pensez qu'il y a une chance que le secteur des énergies renouvelables en France se développe ?
Écoutez, en tout cas, si la France ne veut pas le développer, ça va se développer tellement vite dans le monde que je ne vois pas la France rester en arrière. Je prends le problème autrement. Lorsque, en juin, on va avoir toutes les contributions volontaires des pays, et dans chaque chacun de ces pays, on va avoir une augmentation de la part des énergies renouvelables. On va avoir des plans d'investissement dans ces énergies. Je ne vois pas la France, et d'ailleurs la grande entreprise d'électricité que nous avons, EDF, réfléchit aussi aux énergies renouvelables. Total a un grand département d'énergies renouvelables. Ceux qui ont fait le cœur de la recherche nucléaire en France, le CEA, a un grand département d'énergies renouvelables. On ne peut pas dire on ne va pas le faire. Tout le monde va le faire. Et il y a bien sûr que la France va aussi participer à cet effort. Après, il y a des questions d'équilibre. Chacun aura dans les pays, vont faire des choix en matière d'équilibre énergétique. Les Allemands ne veulent pas du nucléaire. Nous,
ils le remplacent par le charbon.
Ils le remplacent par le charbon, mais ils devront aussi l'enlever. Ils sont, dans le plan de décarbonation du mix énergétique allemand, bien sûr qu'il y a l'accroissement de plus en plus du rôle des renouvelables et de la biomasse. Enfin, de la biomasse parmi les renouvelables. Ce qui oblige les Allemands à faire d'ailleurs des prouesses. Ils seront obligés de les faire en matière d'innovation pour savoir comment on va intégrer tous ces renouvelables dans un système électrique qui n'était pas prévu pour ça, puisqu'on se fondait sur d'autres sources. Donc on est en train d'assister dans les 10 ans qui viennent, dans les 15 ans, c'est pas dans 50 ans, dans une révolution sur la manière dont les énergies renouvelables vont être insérées dans ces systèmes électriques mondiaux.
Mais pour vous, qu'est-ce qui bloque en France sur le développement des renouvelables? Ce sont les modes de financement, une fois encore? Qu'est-ce qui fait que ça n'évolue pas beaucoup depuis 10 ans?
Ça a évolué, mais moins vite que nos engagements européens. Pour 2020, on est en retard, mais en revanche, le programmation des investissements, la mobilisation aujourd'hui des acteurs fait que je crois qu'on sera au rendez-vous pour 2030, c'est-à-dire de ce qu'il y a aujourd'hui dans la loi de transition énergétique. Je crois que tout le monde a vu l'intérêt. Avant, il y avait une bataille un peu stérile, me semble-t-il, entre les partisans du nucléaire et les partisans des énergies renouvelables.
Elle est à l'œuvre.
Elle a considérablement changé. Elle a vraiment considérablement changé. Je crois aujourd'hui, par exemple, les grandes entreprises d'énergie ne pensent plus qu'elles ne doivent pas aussi investir dans le renouvelable. Et on est dans une vision beaucoup plus pratique, pragmatique qu'hier, je crois, de ce point de vue.
Et comment est-ce que nous parviendrons à diminuer par deux notre consommation d'énergie d'ici 2050, tout en voulant maintenir de la croissance et des emplois?
De tous les scénarios qui ont été faits lors de ce débat sur la transition énergétique montraient qu'on arrivait à cette réduction des émissions qui doit être s'accompagner d'une réduction de la consommation énergétique. Enfin, comme indication, c'est pas un butoir. On va pas fermer toutes les emplois. Enfin, on va pas éteindre l'électricité française si en 2050 on n'y est pas. Mais c'est que on a beaucoup de progrès à faire en matière d'économie d'énergie.
Par exemple, dans le secteur du logement, on est censé rénover 500 000 logements par an. On est très très loin du compte.
On est loin du compte parce que tout le système est en train de se mettre en place, de financement, les artisans et les entreprises qui sont compétentes. On a du retard par rapport à l'Allemagne, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup plus à la fois de matériaux, d'artisans, d'entreprises qui savent faire de l'isolation des bâtiments à bon marché. Et c'est ça qu'on doit faire. Mais il n'y a pas de raison qu'on a pris du retard, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas à temps.
Laurence Bénin, pourquoi est-ce que ce débat semble toujours aussi anxiogène? On a l'impression que, voilà, si on ne se limite pas à 2 degrés, on est dans un monde d'une immense insécurité. Est-ce qu'on ne force pas le trait pour simplement convaincre les opinions publiques ou les dirigeants?
Non, je crois pas. On n'a pas forcé le trait. Les scientifiques, vous savez, ça fait très longtemps qu'ils nous disent les mêmes choses de façon répétée, cohérente et de plus en plus précise.
Par exemple, si on dépasse ces 2 ou 3 degrés, on est vraiment dans un monde moins sûr, plus violent,
bien sûr,
générateur de conflits.
Soit si on pense que les scientifiques nous racontent des bêtises. Oui, on est. Donc il faut reconnaître le danger là où il est. Surtout que nous avons les moyens d'y arriver. Encore une fois, en faisant des économies d'énergie, c'est-à-dire en étant efficace sur le plan énergétique, pas en se privant de consommation, on fait déjà un très grand pas. Et puis, il y a aussi des consommations qui seront peut-être considérées comme inutiles. Et puis, on a un gaspillage fantastique quand même de nos ressources. Regardez le gaspillage des ressources alimentaires. Les fuites de gaz. Nos systèmes qui transportent du gaz ont des fuites considérable. Donc, on a des fuites dans les systèmes d'eau, ce qui veut dire de l'énergie. Donc, il y a aussi, tout simplement, comme quelqu'un qui aurait beaucoup d'argent, qui a vécu sans limitation, se dit, on est dans un monde contraint, ça ne veut pas dire qu'on vit moins bien, mais on est beaucoup plus raisonnable dans la manière de le gérer, et on innove pour pouvoir faire des choses. Vous savez, on a innové énormément depuis 1950. Et notamment après ces deux chocs pétroliers. On a une croissance française qui a continué à augmenter et on voit la diminution régulière des consommations, en tout cas énergétiques. Regardez les voitures ou même la consommation d'électricité. Elle est aujourd'hui vraiment stable et dans la plupart des pays en train de se réduire. C'est vrai pour la consommation d'eau d'ailleurs aussi. Donc je crois qu'il faut se dire qu'on a vécu dans un certain paradigme donc qu'il faut changer, mais changer ne veut pas dire changer pour le moins bien. Ça veut dire changer beaucoup pour le mieux. D'autant que quand même, conserver cette planète dans un état à peu près raisonnable, ça c'est un bien dont il faut comprendre la valeur. On en a besoin. On a besoin de la biodiversité pour se nourrir. On a besoin d'un climat stable pour que les récoltes poussent. Donc c'est pas le 2 degrés qui est anxiogène, c'est le continuer à faire comme maintenant. Il faut vraiment changer la perspective de qu'est-ce qui est préférable.
Est-ce qu'il n'y a pas besoin aussi d'un discours de vérité? Parce qu'on a tendance en ce moment à lier tout ce qui ne va pas à la question du climat, au niveau des catastrophes naturelles par exemple. Or, bon, on voit par exemple le président va se rendre aux Philippines, mais rien n'indique scientifiquement que les dernières catastrophes aux Philippines ont un lien avec cette problématique du réchauffement climatique. Pourquoi est-ce aux Philippines que le président se rend prochainement pour parler climat?
C'est un des pays qui est le plus touché par la fréquence accrue des événements extrêmes et la violence accrue. Les scientifiques ne disent pas que ça n'a pas de rapport. Ça n'est pas vrai. Ce que disent les scientifiques, c'est
qu'ils ne peuvent pas prouver le rapport.
Mais parce qu'ils sont très sérieux. À partir du moment où on ne peut pas dire à 99%, c'est le cas, hein, c'est la logique des rapports du GIEC, on dit qu'il y a des très bonnes chances que ce soit lié au réchauffement climatique. Prenez ce qu'on appelait le Superstorm Sandy. Cet ouragan, on a établi que c'est parce que l'eau est plus chaude aux alentours de New York, dans certaines zones, que cette tempête a accru sa violence. C'est ce qui s'est passé pour le typhon aux Philippines il y a donc 2 ans. Donc on sait que le réchauffement des océans accroît la violence des événements extrêmes. Le réchauffement des océans, il est lié au changement climatique. Donc ça ne veut pas dire que tous les événements extrêmes, qu'il n'y avait pas de typhons avant. Bien sûr qu'il y avait des typhons avant. Et ce qu'il y a de sûr, enfin ce que disent les scientifiques, c'est qu'il y a de très grandes chances que c'est ce réchauffement qui produit la violence accrue. Donc oui, les Philippines, c'est un endroit particulièrement important pour venir apporter une parole de prise de conscience aujourd'hui.
Actuellement, 3 ministres français, Laurent Fabius, Mme Royal et Mme Girardin, sillonnent le monde pour convaincre leurs interlocuteurs de l'importance de ce sommet, donc dans un peu plus de 9 mois à Paris. Qu'est-ce qu'on peut déjà en dire? Qu'est-ce qu'on peut en présenter? Ce type de sommet, généralement, peut nourrir une forme d'interrogation, de scepticisme. Paris 2015, c'est une date, c'est un tournant?
C'est un tournant. Il ne faut pas prendre ça comme l'accord qui résout tout, ou l'année où on résout tout, c'est pas vrai. Mais c'est un tournant, parce que à partir de là, et parce que les pays le veulent, hein, c'est pas parce que la France a décidé ainsi, parce que les pays le veulent, on va s'engager dans une trajectoire, dans un chemin, où on va faire toujours de mieux en mieux et de plus en plus. Et chacun va se surveiller pour montrer qu'on avance, qu'on met à disposition des technologies, qu'on coopère. C'est pas seulement des décisions unilatérales de chaque pays un par un, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble. Est-ce qu'on a des grands programmes d'énergie renouvelable ensemble? Est-ce qu'on a un programme, par exemple, sur le stockage de l'électricité, qui est le principal verrou de l'introduction des renouvelables dans tous les systèmes énergétiques? Eh bien, on le fait ensemble, peut-être pas tous les 195 pays, mais quelques pays importants qui vont délivrer ça, comme d'ailleurs les grandes innovations qui se sont passées dans le monde.
Est-ce que vous, dans vos réponses un petit peu plus tôt, on a eu l'impression que par exemple au niveau de la contrainte, il n'y a pas vraiment d'outils applicables à tout le monde, puisque vous le dites, on va se surveiller les uns les autres. Au niveau du fonds vert, des engagements financiers, il n'y a pas non plus de cible. Vous ne dites pas, il faudra qu'on recueille tant d'argent
Je vous corrige, on avait dit 10 milliards de dollars pour l'IMA. On les a. Et ça va être donc pour les 3 prochaines années ce avec quoi va financer ce fonds. On va annoncer à Paris comment on va arriver aux 100 milliards de dollars avant 2020, c'est-à-dire respecter l'engagement de Cancun. On va sûrement montrer aussi, ça fait partie de la négociation, donc je n'ai pas la réponse, dire qu'est-ce qui va se passer après 2020. Bien sûr qu'il y aura des engagements. Et encore une fois, on est en bon chemin pour atteindre les 100 milliards en 2020. Et c'est ça qu'il va falloir d'ailleurs montrer très concrètement, très pratiquement, d'où vient l'argent public, quel est l'argent privé qui s'y investit, où ça, hein, et qui en bénéficie.
Et vous attendez autre chose de la part des deux plus gros pollueurs, Chine et États-Unis, qui font à eux deux la moitié des émissions de gaz carbonique. Est-ce que vous attendez autre chose que ce qu'ils ont annoncé en novembre dernier?
Ils y réfléchissent. Leurs contributions, soit en mars, soit en juin, vont être plus précises et appuyer notamment pour la Chine sur une série de mesures sectorielles. Il va y avoir quelque chose de très important, c'est leur décision sur le pic de consommation de charbon, c'est-à-dire quand est-ce que ça va diminuer. Et puis, au fond, ce qu'il faut obtenir à Paris, c'est considérer que c'est une première étape et que ces contributions des pays, c'est comme des planchers. C'est le minimum qu'on doit faire et qu'il faut essayer de faire plus. Je prends l'exemple européen pour 2020. On s'est engagé à moins 20% à Cancun. Eh bien, on va faire beaucoup mieux que moins 20% en 2020. On sera peut-être aux alentours de moins 27 ou presque, pas tout à fait, mais 27 ou 28% de moins que ce qu'on... Et donc, on aura fait plus. C'est ça qu'il faut arriver à obtenir. Que les pays mettent une base qui sera pas assez importante dans 2015. Mais on a un accord qui va nous amener à, peut-être tous les 5 ans, se revoir pour aller au-delà. Et, de surcroît, travailler ensemble pour que ces technologies... Pourquoi est-ce que les pays sont conservateurs? C'est parce qu'ils pensent que ça va être trop cher, que ça va être trop difficile pour des raisons économiques. Mais si on montre, et c'est ça qu'on est en train de voir progressivement, que tous ces investissements dans ces nouvelles technologies, le fait que tout le monde fait ensemble, ça abaisse les coûts de façon considérable. Les technologies, elles sont globales. On n'a pas une voiture chinoise différente d'une voiture française ou américaine. Et c'est ça qu'il faut expliquer à tous les pays.
En parallèle, on a d'autres négociations qui sont commerciales, elles, par exemple, au sein de l'Organisation mondiale du commerce, et qui ne prennent pas en compte ce genre de choses, puisque Kyoto, finalement, vu que les États-Unis n'ont pas ratifié, ils ne sont soumis à rien dans ce cadre-là. Donc c'est comme si tout se déroulait, comme s'il y avait des négociations mondiales sur des sujets qui, finalement, ne se rencontrent pas.
Et bien, ce n'est pas vrai. Pourquoi ? D'abord, il y a d'autres négociations dont on n'a pas parlé, par exemple celle du protocole de Montréal, qui aujourd'hui va intégrer de nouveaux gaz, très probablement, en tout cas c'est la négociation, je ne sais pas si on arrivera à la boucler d'ici 2015, notamment ces gaz fluorés qu'on a d'ailleurs utilisés pour remplacer les autres gaz fluorés qui attaquaient la couche d'ozone. Donc il y a un parallèle, le protocole de Montréal, qui va nous renforcer si tout se passe bien. À l'OMC, pour la première fois, on a une discussion aujourd'hui sur la libéralisation des services environnementaux, pour commencer à prendre l'environnement en compte dans les négociations commerciales. Donc, je ne vous dis pas que c'est simple, c'est une bataille. Bien sûr, c'est une bataille. Mais elle est en train de se passer à plusieurs endroits. Et il y a un arc qui se dessine dans plusieurs de ces négociations pour dire, attendez, on ne peut pas négocier le commerce sans réfléchir à l'environnement. C'est ça qui est, me semble-t-il, fondamentalement nouveau.
Avec cette question du réchauffement de la planète, est-ce que nous sommes en train de parler dans cette émission d'un sujet scientifique, d'un sujet social, économique, voire géopolitique, puisque potentiellement générateur de conflits ?
C'est tout. C'est pour ça d'ailleurs que c'est passionnant et que ceux qui s'engagent dans la négociation changement climatique ont beaucoup de mal à la quitter. Parce qu'on parle géopolitique, le rôle des pays du Golfe par exemple dans cette négociation, jusque-là ils étaient contre, ils luttaient contre cette convention qui attaque leurs intérêts directement et donc c'était un gros élément de perturbation de la négociation. C'est fini, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus être
ils sont frappés aussi, ils ne sont pas à l'écart de la discussion.
Ils sont frappés et ils pensent qu'il faut qu'ils s'engagent. L'Arabie Saoudite elle-même veut engager un programme de diversification de son économie. Elle a déjà commencé à le faire. Donc on voit que ça connecte. Donc il y a de la géopolitique. Qu'est-ce que va faire la Russie en décembre 2015? Très important. Pourquoi la Chine et les États-Unis se sont... Donc il y a de la politique intérieure. Et il y a aussi de la science, de la technique et aussi la prise de conscience des citoyens. Parce que si les citoyens ne poussent pas les gouvernements à faire, bien sûr qu'il y a toujours de bonnes raisons, ce qu'on disait au début de l'émission, d'attendre plus longtemps.
Voilà donc un sommet qui aura lieu à Paris et dans 9 mois exactement, que vous préparez avec le gouvernement et avec vos homologues à travers le monde. Merci Laurence Lubiana, ambassadrice en charge de ce changement climatique, d'être venue sur le plateau d'International RFI TV5 Monde en liaison avec le monde. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un autre numéro de cette édition. Excellente suite de programmes sur les différentes antennes que nous venons de citer. Merci Laurence Lubiana.